RCF.
À l'occasion du mois missionnaire, nous arrêtons sur cette question de la mission. Nous en parlons avec le père Paul Dossou, qui est le supérieur général de la Société des prêtres de Saint-Jacques. Ce thème, Paul Dossou, il est bien enraciné dans l'Écriture et nous allons nous y arrêter longuement, et notamment dans le message de saint Paul aux Éphésiens.
Donc d'abord, je vous remercie beaucoup, Yvon, pour l'invitation de pouvoir partager mon expérience un peu, mais aussi ce que je pense, la vision et la conception que j'ai sur le thème central de la vie de l'Église, qui est l'essence même de l'Église, la mission. Donc ce thème, c'est un thème quand même pour moi qui est enraciné dans le message de saint Paul aux Éphésiens. Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19 à 22. Donc, je rappelle ce texte, il dit « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu, car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et les prophètes, et pour pierre d'angle, le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandir en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. » Voilà. Donc, quand nous comprenons ce texte, quand nous comprenons notre rôle de témoin, de baptisé, nous pouvons commencer à créer de nombreuses occasions, de bonnes conditions pour faciliter la mise en action de la mission que nous avons reçue du Seigneur. Et comme c'est dit, sachez tirer parti de la période présente. Colossiens chapitre 4, verset 5. Autrement dit, sachez profiter du temps qui vous est offert.
Et puis, il faut dire aussi où se situer dans une perspective, quand on est dans cette perspective missionnaire, où Dieu veut nous aider. Ça, c'est très important.
Oui. La prédication même de l'Évangile est la manière de dire « Dieu nous aime tellement qu'il veut nous aider à mieux vivre dans le monde d'aujourd'hui. » Et c'est cette responsabilité qu'il nous a donnée, c'est pour nous aider à vivre en frère, en fraternité. Et c'est une responsabilité que nous avons reçue de lui. Donc Jésus n'a pas dit, pendant sa mission, il n'a pas dit « Dieu vous bénisse » et puis il part. Non, il a pris le temps avec les gens. Il guérit les malades, il libère les possédés, les prisonniers, il rassasie les affamés, il console les affligés, etc. Donc il nous a laissé cet exemple. C'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez cette race. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21.
Il faut dire que face à l'urgence, face à l'exigence de cette mission, aujourd'hui le chrétien n'a que trois choix.
Oui, moi je pense vraiment le chrétien, il a que trois choix parce que et d'abord, il peut dire, bon, j'arrête, s'enfuir hein, en accusant Dieu, bon voilà, pour ne rien faire. Parce que Dieu, j'essaye de faire quelque chose, mais on voit pas beaucoup de résultats, et bien j'arrête, voilà, j'accuse Dieu. Et deuxième chose, il peut dire, le deuxième choix, il peut dire, restez, regardez. Il croise les bras, et puis, symbole de son impuissance, je peux rien faire face à cette réalité difficile, je dirais même à ce désert, on essaye de planter, mais on a l'impression que la semence ne pousse pas. Donc voilà, on dit, eh bien, on arrête, on est impuissant. Ou bien, troisième possibilité, le troisième choix, c'est décider de façon convaincante à faire quelque chose en assumant sa responsabilité de baptiser. Donc voilà pourquoi moi, je conseille à tous et à toutes, à chacun, de faire le choix, le troisième choix qui est décider à faire quelque chose.
Et il faut dire aussi que la mission, eh bien, constitue l'essence même de l'Église.
Oui, la mission, c'est l'essence même de l'Église, parce que nous pouvons aller même plus loin. J'espère que je vais revenir sur cela. La mission est dans le cœur de Dieu, dès le départ. Et nous allons voir un peu plus comment déjà Dieu a essayé d'envoyer même des prophètes, hein, des prophètes pour aider les gens à connaître Dieu. Son amour, et à partir de là, je crois, la mission, c'est quelque chose, c'est l'essence même de l'Église et cette responsabilité que l'Église a reçue de faire connaître à tous et le message du Christ. Et ce message, et le Christ est lui-même le messager, le message.
Sur RCF avec le Père Paul Dossou, nous évoquons la question si importante, essence même de l'Église, de la mission. Nous allons faire un parcours dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Alors, est-ce qu'on parle beaucoup de la question de la mission dans l'Ancien Testament, Paul Dossou?
Comme j'ai dit déjà, la mission doit être comprise comme le projet de Dieu. Elle est à la fois inscrite dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans toute l'histoire de l'Église. Et même si le mot mission, on trouve pas ce mot vraiment, c'est pas trop connu dans la Bible, ce mot mission. Toutefois, on le retrouve écrite. Prenons par exemple le psaume 90. Le psaume 90 dit, le Seigneur Yahvé donne mission, le mot mission, à ses gens de le garder sur tous tes chemins, de te garder sur tous tes chemins. Et aussi, on peut aller plus loin dans les actes des apôtres. Et quand Barnabé et Paul, après avoir rempli leur mission, Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 25. Et puis dans chapitre 13, verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent à leur mission. Donc, voilà, donc ce mot déjà, on le trouve. J'ai pas réussi à trouver d'autres références, mais ces trois références est claire pour dire que la mission vraiment est dans le cœur de Dieu. C'est quelque chose que Dieu qui importe beaucoup pour Dieu déjà dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et dans la mission de toute l'Église.
Et il faut dire aussi que dans ce mot mission, on peut dire qu'il y a comme une énergie qui se dégage.
Oui, exactement. Dans le mot mission, on trouve vraiment, il y a une énergie qui se dégage. On y trouve action. Dès qu'on parle de mission, on trouve action, tâche, ordre, mandat, engagement, affectation, charge, obligation, etc. Donc c'est pour dire que la mission est l'œuvre de Dieu donnée à l'Église et l'Église qui, suivant l'exemple du Christ, proclame le royaume de Dieu. Voilà, et l'action, dans l'action. Donc la mission est d'obéir à un commandement, c'est d'obéir à un commandement. Et le commandement de Jésus, qui est de transmettre le message de l'Évangile à tous les peuples, nations et créatures, de faire des disciples et d'implanter des tentes d'amour et de fraternité au milieu du monde, en agissant bien sûr sous la puissance de l'Esprit-Saint.
Alors faisons un petit parcours dans l'Ancien Testament et on peut dire que on va trouver dans l'Ancien Testament justement, eh bien, ce plan de Dieu qui cherche à annoncer et faire connaître son amour à tous les peuples.
Oui, nous pouvons dire, regardez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, hein, eh bien, nous allons trouver de faire connaître Dieu. Le plan de Dieu, c'est de faire connaître son amour à tous les peuples. Hein. Il n'y a pas de distinction à tous les peuples. Et la mission, je dis, c'était une mission en action et elle était tellement importante dans le cœur de Dieu, le dessein de Dieu, de Yahvé, je dirais. Eh bien, chaque nom des prophètes avait une signification propre. Et à chaque prophète que Dieu choisit, donc chaque nom a une signification propre. Prenons juste quelques exemples. Le prophète Isaïe, par exemple, eh bien, le nom signifie le salut de Dieu. Yahvé met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de Dieu. Et on peut dire aussi le prophète Ézéchiel, par exemple. Eh bien, le nom du prophète Ézéchiel veut dire Dieu fortifie. Et on peut continuer, par exemple, aussi Jorel, Yahvé est Dieu. Et le prophète Amos, porteur de fardeau. C'est-à-dire que Dieu nous porte aussi dans nos difficultés, dans nos problèmes. Donc, tout est englobé dans cette mission. Et comme nous savons bien, la mission du prophète, c'est dénoncer et annoncer. Eh bien, c'est pour cela qu'on trouve ces noms-là très importants. Jonas aussi signifie colombe. Michée, eh bien, qui est comme Dieu. Et Malachie, Zacharie, tout ça, Zacharie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Yahvé se souvient. Yahvé n'oublie pas. Et puis, Malachie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, messager de Dieu. Donc, etc. Nous trouvons pas dans la Bible vraiment comment la mission était au cœur de Dieu. Voilà pourquoi il choisit des personnes pour mettre au service de cette mission.
Serviteur de l'Évangile pour le monde, tous ensemble avec le Christ. Par nos voix et par nos gestes, Dieu s'annonce que toute chair s'éveille à lui, s'éveille à lui.
Ouvrons les yeux sur les signes du royaume. Dieu
avec le Christ, par nos voix et par nos gestes, Dieu s'annonce que toute chair s'éveille à lui, s'éveille à lui.
L'Église est là pour servir la multitude, ses voix sont le chemin de communion pour la justice.
Sur RCF avec le Père Paul Dessous, nous continuons d'évoquer la question de la mission. Vous nous avez fait un petit parcours à partir des noms des prophètes. C'est très intéressant de voir dans la manière dont Dieu cherche à se donner à nous. Alors qu'en est-il dans le Nouveau Testament et quelle différence entre Ancien et Nouveau Testament ?
Voilà, donc on peut regarder tout de suite à partir des noms que je viens de citer, les noms d'importance, les noms, le sens des noms. Eh bien, on peut dire que il ne fait aucun doute que les missions de l'Ancien Testament devraient servir d'aimant spirituel pour attirer, comme si Dieu est comme un aimant qui attire les peuples vers lui pour transmettre son amour, et que toutes les peuples connaissent Dieu. Tourne vers Dieu. Et donc, c'était comme une mission, je dirais, centripète. C'est-à-dire qu'il y a le centre et puis tout converge vers le centre. Et dans le Nouveau Testament, la différence, c'est que, n'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, il y avait un peuple choisi, Israël. Donc, et puis, dans le Nouveau Testament, on va retrouver autre chose, parce qu'une mission beaucoup plus centrifuge. C'est-à-dire qu'une mission qui va pousser, l'Église doit sortir pour atteindre le reste du monde. Elle doit accomplir la mission centrifuge, c'est-à-dire avoir la force rotative qui pousse ses membres vers de son centre vers l'extérieur afin d'atteindre les autres peuples. C'est le sens même du mot grec qu'on trouve dans Luc chapitre 10 verset 2 et suivant, le mot ekbalo, et c'est emporter avec force. Pousser, jeter dehors. Donc le missionnaire ne peut pas rester assis. Il faut qu'il parte, il faut qu'il sorte. C'est le sens même du mot de mission. C'est pour ça que je dis qu'il y a une énergie dans la mission. Donc la théologie du Nouveau Testament est évidemment missionnaire. Alors que le peuple, je reviens sur la question du peuple Israël, alors que le peuple Israël, on peut comprendre que le peuple Israël a échoué dans son dessein missionnaire. C'est pour cela que Dieu a décidé d'organiser un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, c'est nous, c'est l'Église que nous formons, l'Église à laquelle il a confié la tâche missionnaire. Donc le point culminant du dessein universel de Dieu pour la rédemption de l'homme est atteint dans le Nouveau Testament. Donc parler de mission, c'est tout centré sur la personne de Jésus-Christ qui est le premier missionnaire de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Il a envoyé, c'est-à-dire qu'il a donné mission à son Fils de venir dresser sa tente au milieu des hommes pour sauver les hommes. Donc Jean chapitre 3 verset 16.
Et on peut dire que, finalement, c'est intéressant de s'arrêter sur cette expression qu'on trouve dans l'évangile de Jean, « celui qui m'a envoyé ».
Oui, voilà. Si on prend le temps de lire seulement l'évangile de Jean, eh bien, l'expression « celui qui m'a envoyé » ou « comme tu m'as envoyé » apparaît presque 40 fois dans cet évangile, seulement dans l'évangile de Jean. Donc le missionnaire, ce qui veut dire le missionnaire par excellence, parce que nous sommes missionnaires dans le Christ. Donc le missionnaire par excellence, c'est le Christ. Fils de Dieu a quitté la gloire qu'il avait avec le Père pour devenir homme. Donc il a donc réalisé de vraies missions interculturelles.
Jésus transfère aujourd'hui cette responsabilité à son Église. Cette Église qui est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est dans la première lettre de Saint-Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10.
Et donc, l'Église du Christ, les chrétiens, sont invités à être l'instrument de Dieu pour réaliser ses desseins au cœur du monde.
Oui, exactement. Si nous avons conscience que nous formons vraiment l'Église, que nous sommes l'Église, eh bien cette Église que nous sommes, c'est l'Église du Christ, eh bien c'est l'instrument de Dieu pour réaliser ses desseins au cœur du monde. Donc c'est-à-dire que c'est pas notre mission, c'est la mission de Dieu. Elle a reçu l'ordre, l'Église a reçu l'ordre d'évangéliser le monde. C'est le grand défi. C'est le grand défi de l'Église du Christ aujourd'hui. Avant de monter, eh bien, le Christ, le Seigneur, a laissé l'ordre le plus important à ses disciples. L'exemple, Marc, chapitre 16, verset 15. Faire la mission est un ordre, est un commandement biblique. Ce n'est pas seulement une option, une opinion ou une recommandation. Donc, c'est pourquoi la grande mission ou le grand défi n'a pas été confié à des anges. Non. Ça a été confié à des hommes comme vous, comme moi. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, allez dans le monde entier pour proclamer la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc la nature de la mission de l'Église est la mission centrifuge. Voilà, c'est la mission centrifuge. Il faut partir, il faut aller vers les autres, les gagner, où qu'ils soient, pour la cause du Christ.
Donc on peut dire qu'être chrétien, faire partie de la famille de Dieu, c'est deux choses, un privilège, mais aussi une responsabilité.
Oui, exactement. Faire partie de la famille de Dieu, de la grande famille de Dieu qui est l'Église, est un grand privilège. Oui, c'est un, je dirais même un honneur pour nous, mais cela implique une responsabilité. Donc le serviteur de Dieu, le missionnaire, porte toujours avec lui une grande mission. Qui est travailler dans l'œuvre du Seigneur, faire la volonté du Père, mettre en pratique le don spécial que le Seigneur lui a gratifié. Donc le missionnaire est apôtre, parce qu'il est envoyé. Donc le missionnaire est un ouvrier, je dirais, doté d'un ministère apostolique, comme nous dit selon Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Donc je vous laisse lire ce texte, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13, eh bien, si nous sommes de vrais chrétiens, alors nous devons tous être missionnaires.